Bonjour, je suis Emilia Clarke. Yes. Bonjour, je suis Emilia Clarke. J'écoutais Pop Pop Pop. Et Pop Pop Pop, c'est parti.
Pop-popien et tous les autres aussi, bonjour, puisqu'on va parler de cinéma aujourd'hui et d'un cinéma qui, comme vous le verrez dans quelques instants, s'ancre dans la vraie vie. Profitons-en pour remercier le ciel d'avoir des dirigeants cinéphiles. En l'espace de 48 heures, deux nouvelles aussi surprenantes que réjouissantes, tout du moins dans un premier temps, sont tombées sur nos téléscripteurs que nous nous abstinons à utiliser même si la direction a enfin consenti à nous allouer des telex. Donald Trump vient d'organiser à la Maison Blanche une projection du Joker, film, disons-le, un poil radical, en tout cas très certainement subversif et passe forcément dans un sens trumpien. En même temps, le sens chez Donald Trump, rares sont ceux qui espèrent encore le trouver et certainement pas les habitants du Colorado où le président orange s'est mis en tête de construire un mur alors que l'État n'est entouré que d'autres États américains au nombre desquels celui du Nouveau-Mexique, d'où la possible confusion digne d'un enfant de CM1. Chez nous, le président Macron a été ému aux larmes par la projection des Misérables de Lajli au point de demander aussitôt après aux membres de son gouvernement de bien vouloir faire quelque chose pour améliorer le quotidien des quartiers. Bah, du coup, Jean-Louis Borloo se dit qu'en fait, il aurait dû, il y a un an et demi, faire un film plutôt qu'un rapport préconisant 19 mesures et qui sert aujourd'hui de cale à armoire dans le bureau du Premier ministre. Quel sera l'impact des Éblouis qui racontent le ravage des sectes dans notre beau pays, film dont vient nous parler sa réalisatrice? L'avenir nous le dira. Sarah Succo est l'invitée de Pop Pop Pop.
France Inter. Pop Pop Pop. Antoine de Paune.
Et bonjour Sarah Succo.
C'est à moi, ça y est.
Bonjour.
Parce que je ne comprends pas, il y a eu trois fois les lumières.
Oui.
Bonjour Antoine et bonjour Charline Roux.
Vous avez failli l'appeler Philippe à mes côtés. Ouais, donc,
parce qu'en fait, elle s'appelle. Non, parce que je l'ai croisée aux chandelles hier soir, elle s'appelle Philippe le soir.
Ah, pardon.
Pas maintenant.
Alors, à mes côtés, pour la 499e fois, cette jeune femme, donc, qui est tout sauf sectaire, Charline Roux. Bonjour Charline.
Bonjour Antoine, bonjour Sarah.
Bonsoir
Philippe.
Non.
Deux.
De pas être sectaire.
Non, ça c'est
non. À mes côtés, donc, pour la première fois, Sarah Succo. Vous ne vous lassez pas, Sarah?
De vous, jamais?
Non, de cette émission, vous savez, nous allons fêter notre 500e demain quand même.
Mais je sais, et hier, je ne vous cache pas que quand j'ai entendu Emilia Clarke, parce que je suis fan de Game of Thrones, je me suis dit pourquoi j'ai pas été invitée le même jour.
Parce qu'elle n'était que de passage.
Oh, et puis elle était avec tout en dragon. Voilà, et c'est marrant parce que j'ai eu l'impression qu'elle n'était pas forcément là, que c'était enregistré. Mais après,
mais
bon,
non,
ça, je ne veux pas dévoiler les accords.
Je vous en prie. Bien, alors, avec vous, Sarah Succo, nous allons parler du film Les Éblouis que vous avez réalisé. Ça s'est bien passé, le tournage?
Génial.
Bien. Ça tombe bien parce que dans ce pop-pop-pop, nous allons également parler des tournages qui ont mal tourné avec le livre « Ça tourne mal », qui retrace l'histoire méconnue et tumultueuse du cinéma français. On en parle tout à l'heure avec son auteur Philippe Lombard. Mais avant ça, Sarah Succo, ici, il existe une question encore plus violente que Jean-Pierre Mocky qui lance une scène.
Alors qu'est-ce que tu m'emmerdes? Alors allez où la caméra?
Et cette question, c'est...
Je peux le dire?
Pour vous, Sarah Succo, c'est quoi la pop culture? Alors, pour être totalement honnête, j'ai eu des réponses saratatées, succoteuses, septième art dive, et même éblouissée. Parmi mes préférées, il y a celle d'une légende du cinéma, JCVD.
Ben, la pop culture, elle se trouve un peu partout. Ça se trouve un peu dans mon enfance, dans mes films, dans tout ça. Par exemple, les gens... Bon, j'ai grandi avec du Brel et de la musique classique, mais... Par exemple, le Brel à 20 ans et le Brel à 30 ans ou le Brel à 40 ans, on le comprend différemment.
Bien sûr.
Donc déjà dans cette pop culture-là, il y a déjà une évolution de pensée due aux paroles de Monsieur Brel. Et puis tu as des musiques de films comme Laurence d'Arabie qui sont...
Oui, bon, merci Jean-Claude.
Oh, alors, j'adore.
Oui, nous aussi on l'adore. Alors,
mais c'est marrant parce que je savais qu'Éric Caravaca imitait très bien Jean-Claude Van Damme et c'est génial parce que là vous avez passé son extrait à lui quoi.
D'Éric Caravaca.
Ouais, oui, qui fait JCVD.
Vous l'avez reconnu?
Ben, un peu.
Ah, bravo.
Trop bien.
Attendez, vous n'allez pas échapper à ma question. C'est quoi pour vous la pop culture?
Alors, pour moi, la pop culture, Antoine. Comme je suis anglaise, bilingue, pas autant que vous, c'est la pop culture.
D'accord.
Donc, c'est la culture du pape.
Ok, très bien.
Et voilà, c'est vrai.
Oui, très bien, la pop culture.
Et qu'est-ce que c'est la pop culture? C'est la culture du pape. Et ce qui est génial avec le pape, je viens quand même pour un film qui parle non pas de religion, parce que c'est pas le principe, c'est que le pape, il est culte. Et la culture, la pop, vous suivez?
Oui, très bien, oui.
Pop culture.
Oui, ok.
Et moi en plus.
Oui.
Comme j'ai fait un film et que j'ai eu le prix au Vatican, et ben c'est un peu le pape. Quelque part, qui a validé ce film.
Qui a validé le film Les Éblouis.
Alors, Jean-Paul II avait vu le film à l'époque, il avait adoré. Avant de mourir, parce que j'en avais parlé par téléphone. Et là, voilà, donc la pop culture, si je veux être un peu sérieuse, parce que je sens que Charline, elle aime bien un petit peu le sérieux. En fait, comme j'ai su qui était Michael Jackson à 18 ans, comme quand j'étais petite, on me disait, t'écoutes quoi comme musique? Je disais, j'écoutais Philips, parce que j'avais des cassettes et que je pensais que c'était un artiste et qu'en fait, c'était une marque de cassettes. Ben, ne rigole pas, Charline, c'est vrai.
C'était un artiste aussi.
Ah bon?
Oui.
Philips?
Oui.
Ah, et Carrère aussi, parce que moi j'écoutais Sony, Carrère et Philips.
Oui, tout ça c'était des artistes.
Oh putain, merci Antoine.
C'est le Earth, Wind & Fire de Sarah.
Une heure pour vous expliquer tout ça.
Et on me dit souvent que je suis beau Ferringard parce que j'adore N'oublie pas les paroles. Nagui, si tu m'entends, ça fait 4 fois que je fais l'émission, j'ai raté le casting, j'en profite. Je pense que la pop culture, pour moi, parce qu'on me dit souvent t'es ringard, t'es beauf, et ben je pense que ce qui est ringard et beauf un jour peut être le lendemain hype et hop et pop culture.
Vous avez 100 fois, 1000 fois raison, et c'est ça une bonne définition de la pop culture. Charline, vous me validez ça ou pas?
Oui, bien sûr.
Bien. Alors, Sarah Sukoul, la pop, la culture et la pop culture, on va en parler dans la suite de Pop Pop Pop, bien sûr, juste après RNP. RNP, c'est un morceau signé des rappeurs de YBN, et attendez, et Anderson Paak. Mais oui.
Je comprends rien à ce que vous dites. Y'all niggas gon' be fuckin' with me. I got 2 bad bitches gon' be rubbin' my feet. I got 3 young niggas down the bus at the heat. And all y'all ain't got nothing to do. Not one of y'all niggas gon' be fuckin' with me. I got 2 bad bitches gon' be rubbin' my feet. I got 3 young niggas down the bus at the heat. And all y'all ain't got nothing to do. Okay, put your fucking hands up. This the fucking anthem. Smiling cause I'm young, rich, black, and I'm handsome. Not to mention wealthy. Ass on a healthy young millionaire. What the fuck can you tell me? Smell me, nigga. That's Chanel cologne. I'm in Europe with the tourists with no cell, your phone. Like, ooh, sound like rich nigga problems. I hit a bad bitch with a fist full of condoms. In the randomness of risky menages. Like, get the head right, she can get what she want. If it spits, then flaunt it. My trip like a faucet. She told me she was pregnant. I ain't even take the motherfucking dick out my pocket yet. The opposite, she want me to fly her, so I cop the jet. Must be thinking I'm a one-way ticket on a runway. Dripping in my feng shui, sipping on a Sunday. One of y'all niggas gonna be fucking with me. I got 2 bad bitches gonna be rubbing my feet. I got 3 young niggas down the bus at the heat. And all y'all ain't got nothing to do. Not one of y'all niggas gonna be fucking with me. I got 2 bad bitches gonna be rubbing my feet. I got 3 young niggas down the bus at the heat. And all y'all ain't got nothing to me. I bought a Montclair coat for the times we're broke. I'ma wear it in the summer on LeBron James boat. Front row, duh, bro. We don't sit on those bleeds. Ain't your pockets obese? They won't fit in those seats. Hey, we like a co-team. Nigga Shaq and Kobe. Like back in 03. I was only like 6. I was like 16. But I can give a 16. I can make a bitch scream. That's a bit extreme. I got a thick ball, bitch. I call it Miss Clean. My trip frosty like Halls and Listerine. All stars, you hardly 6 string. Yeah, I had to ball hard to harvest these dreams. Swear got me too. No Harvey Weinstein. The coupe was lime green. My wrist was blinding. We party in South Beach for Ferraris and blue cheese. Fuck does that even mean? Nigga, just let the hook sing. One of y'all niggas gonna be fucking with me. I got 2 bad bitches gonna be rubbing my feet. I got 3 young niggas down the bus at the heat. And all y'all ain't got nothing to me. Ooh, not one of y'all niggas gonna be fucking with me. I got 2 bad bitches gonna be rubbing my feet. I got 3 young niggas down the bus at the heat. And all y'all ain't got nothing to me. RNP, c'est un morceau de YBN Cordae et Anderson Paak. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes aujourd'hui accompagnés d'une réalisatrice. Et il vous a pas plu? Il était pas top.
Non, il était pas plu.
Et je suis déçu parce que je suis mis un peu pour vous entendre.
Je le refais, Allez, culture de façon...
Wow.
Ah, oh.
Et moi, okay. Je dois le faire à la fin ou maintenant?
À la fin, non,
à la
tout
fin parce
tout
que j'en ai un spécial.
Gardez-en. Nous sommes aujourd'hui avec une réalisatrice et une actrice qui a joué dans ça.
Annie, femme au foyer, est aux anges. Aujourd'hui, Simon, son mari, est enfin à la retraite.
Je crois à Simon et à sa liberté retrouvée.
Mais Simon ne se fait pas à l'inactivité et se retourne contre sa femme.
Tu sais quoi, Annie? Le jardinage, ça me gonfle.
C'était dans l'épisode « Mon mari doute de moi ». Hein? Mais cette femme qui fait douter son mari, qui est-elle? Réponse avec son pop-portrait. Alors oui, son pop-portrait.
Alors attendez, juste pour info, vous avez passé un extrait de « Le jour tout a basculé », je crois.
Oui, oui.
Et alors, juste parce qu'en fait j'ai un homonyme, ce n'était pas moi, mais c'est pas grave, allez-y.
Ah, c'était pas vous?
Non, c'est un autre Sarah Succo, mais c'est pas grave.
Il y a deux Sarah Succo.
Enfin, à l'époque, elle est morte depuis. Mais allez-y, c'est pas grave. Ça s'écrivait AUX.
Non, ouais. Je vois, elle assume pas du tout. Okay. Bien, alors, son pas portrait, mais son pas portrait, mais à base de.
À base de pop.
Eh oui, et c'est signé Charline Rororo.
Aujourd'hui, une invitée que l'on aurait vite fait d'étiqueter nature comique, un code barre un poil trompeur, même s'il est vrai qu'elle a fait des merveilles dans la troupe à Palmade, avec toujours un soupçon de bizarrerie, tout comme dans Discount, rapport au prix, l'étiquette, vous l'avez, Discount.
Ah, génial, Discount.
La comédie sociale est militante avec Corinne Maziero, elle aussi un drôle d'oiseau. C'est notre invitée qui faisait d'Agnès Jaoui une future mamie dans Aurore, elle aussi qui qualifiait des nouveau-nés ainsi.
Vraiment, je comprends pas. Qu'est-ce qu'ils sont moches?
Dans Joséphine s'arrondit, toujours une manière étrange de saluer l'arrivée d'un enfant, ou elle qui se faisait aboyer dessus par Léa Drucker dans Place Publique.
Samantha !
Elle est chiante, hein, cette patronne, non ? Tout le temps sur mon dos.
Tout ça parce qu'elle faisait rien qu'à gratter des selfies à un animateur vieillissant et aigri, incarné par Bakri. Mais on le sait ici, derrière tout artiste doué pour la comédie, sommeille aussi parfois une réalisatrice de drame, comme Les Éblouis, son premier long métrage, et la raison de sa venue aujourd'hui. Et c'est pas parce qu'on fait rire et qu'on rit qu'on n'a pas des choses graves à raconter. Enfin, ça marche, sauf pour vous. Antoine.
Comment ça, ça marche pas pour moi?
Rien.
Ah bon?
Moi, on m'entend ou pas encore?
Ouais. Alors, bien,
oui. Juste une correction pour vous dire que ce n'est pas un drame, Les Éblouis, mais c'est pas grave.
Non.
On c'est, pas une franche comédie non plus.
Non, mais vous l'avez dit tout à l'heure, on n'est pas étiqueté. Voilà. Entre drame et franche comédie, il y a tout un monde.
Il y a un truc entre les deux. Mais Sarah, vous allez nous corriger tout au long de l'émission comme ça?
Alors, on m'a dit, votre Aurélien qui s'occupe de vous m'a dit, je fais exactement ce que je veux, c'est la première fois qu'on me le dit, donc dites-moi
vous
après.
Vous êtes chez vous, vous êtes chez vous, vous êtes
après,
l'invité.
Si je suis trop chiante et que vous voulez faire vos chroniques,
Cette heure est à vous. Cette heure est à vous, donc intervenez quand vous voulez.
C'est juste que comme là, vous faites des chroniques, apparemment, il dit que personne ne vous comprend, autant que je dis des choses un peu intelligentes. Moi, c'est pour France Inter, c'est Laurence Bloch que j'ai croisé dans le couloir qui m'a dit, s'il te plaît, le niveau de pop-pop-pop. Après, c'est comme vous voulez.
Bon, mais écoutez, on a une heure pour relever le niveau de pop-pop-pop.
Il y a
du boulot,
je peux vous dire.
Bon, c'est vrai, vous avez raison. Alors, Sarah Succo, votre mari doute de vous? Non, c'est pas le cas, mais c'est pas mon cas à moi.
Mon mari douteux?
Mais non, je revenais à l'extrait tout à l'heure, mais c'était pas vous.
Bon, allez, j'arrête de vous
couper. Tout le monde. Alors, donc, votre mari doute de vous, mais ce n'est pas mon cas, puisqu'à ma connaissance, je ne suis pas votre mari.
Je crois qu'on n'en parle pas.
Et j'entends bien être rassuré dans la séquence qui va suivre, puisque c'est l'heure de votre pop-list.
Tu me dis, tu peux le dire, je te fatigue. J'ai compris.
Nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique et une série culte. Sarah, pour le livre, vous avez choisi « J'étais la fille de François Mitterrand » d'Elsa Flagel. Flagel, d'accord. Flagel, donc Charline, il s'agit bien sûr d'une œuvre d'imagination, puisque si mes informations sont exactes, le conte est bon avec la progéniture officielle ou pas de celui qui, ne l'oublions jamais, a changé la vie, comme il s'était engagé à le faire, n'est-ce pas?
Oui, sans doute, j'étais pas née Antoine. Louise a 10 ans lorsqu'elle assiste à la cérémonie de transfert des cendres de Jean Monnet au Panthéon. Pour la première fois, elle aperçoit le président de la République, une vision qui la bouleverse au point d'être persuadée que François Mitterrand ne peut être que son père, alors qu'en réalité, Louise ne voit son vrai père que par intermittence, depuis que ce dernier a quitté le foyer familial pour une autre femme.
Merci. Sarah, auriez-vous l'amabilité de nous en lire quelques lignes, s'il vous plaît, que nous ayons un petit parfum de cette ouvrage?
Alors, je connais beaucoup de passages par cœur parce que j'aime ce livre, mais est-ce qu'il y a un passage que vous voulez que je lise en particulier, celui que vous m'avez mis sous les yeux?
Celui que vous voulez.
Ok. Le sang me monte à la tête, mes joues s'embrasent, sa voix se met à résonner dans le ciel de Paris, et soudainement, comme une éclaircie inespérée, je comprends tout. Je suis sa fille. Désormais, je suis influente, je suis puissante, je suis Loulou Mitterrand. Cela sonne furieusement bien. Alors vous avez écrit « Cela somme furieusement bien », mais c'est « Cela sonne ». Je ne sais pas qui a écrit cette feuille.
Le stagiaire, bien sûr.
Le stagiaire sera viré.
Dès qu'il y a un pain,
cela sonne furieusement bien. Et en même temps, cela somme furieusement bien, c'est beau aussi.
C'est pas mal aussi.
Voilà.
Vous auriez aimé être la fille de François Mitterrand, ou bien c'est l'imagination débordante de cette jeune Elsa Flagel qui vous a séduite?
En fait, non. Alors c'est drôle parce que moi je suis née en avril 81, contrairement à ce que dit ma page Wikipédia qui change tous les jours.
Corriger aussi votre page Wikipédia?
Non, Corinne Maziero s'amuse régulièrement à la corriger et ma date de naissance et à dire que je fais partie d'une non mais c'est vrai, une association où je m'occupe de la saucisse. Tous les jours elle change la page, c'est l'enfer.
C'est vrai.
Ben, on me le dit de temps en temps, mais j'ai pas le temps de la regarder. Non, en fait c'est vrai que...
Ça me donne des idées, tiens.
Voilà, ouais. Je te donnerai les codes, Antoine. Ouais. Il faut connaître des codes. En fait, c'est drôle parce que j'étais la fille de François Mitterrand. Je crois que c'est le premier roman d'Elsa Flagel qui est publié chez Julliard. Ouais. Et en fait... Je l'avais lu, voilà, un peu connaissais vaguement et puis je l'ai lu. Et ce que je trouvais très fort dans ce premier roman, c'est la manière dont Elsa Flageul, si j'ai bien compris, se raconte dans ce premier roman sans se raconter. Moi, je suis née donc en avril 81. Et je pense que François Mitterrand a été élu grâce à la voix que j'ai donnée parce que je suis née prématurément. Par préoccupation ? T'as dit quoi, Charlie ?
Par procuration.
Ah oui, t'as dit préoccupation.
Procuration. Bah ouais. Ouais.
Oui, oui. Et en fait, je pense que si François Mitterrand n'avait pas été élu, j'aurais pas fait mon film. Et du coup, quand Elsa Flageul a écrit « J'étais la fille de François Mitterrand », je me suis dit « c'est dingue » parce que, évidemment, c'était par rapport qu'elle n'était pas à Mazarine Pinjot, tout ça. Et ce que je trouve très très beau dans ce roman-là, et dans tout ce qu'elle a écrit derrière, parce que son dernier livre en librairie, je crois, s'appelle « À vous regarder, ils s'habitueront » ou « À nous regarder, ils s'habitueront », où elle raconte aussi, d'après son histoire personnelle, parce qu'elle a eu un enfant très prématuré. Et en fait, ça m'inspire beaucoup, moi, les auteurs qui, justement, un peu comme moi sur mon film, racontent leur vie de manière décalée, cocasse et à plusieurs voix. Et c'est ce qu'elle fait, et c'est vrai que voilà, il y a Lionel Duroy, qui est un auteur aussi que j'aime beaucoup, qui lui, pour le coup, a raconté sa vie de manière très autobiographique et très directe. Et voilà, et quand vous rencontrez des artistes comme Elsa Flageul, des écrivains qui parlent d'eux d'une manière tellement élégante, drôle, cocasse et à plusieurs voix, bah c'est inspirant quand vous faites un film comme ça.
Très bien, alors il faut passer au film maintenant, Sarah Succo. Et pour le film, votre choix s'est porté sur Le goût des autres, un film réalisé par Agnès Jaoui en 2000. Charline, je suis personnellement d'une nature foncièrement monogame, mais vous, pouvez-vous me donner quelques infos sur Le goût des autres?
N'étant pas de nature anthropophage, je ne peux guère vous renseigner, cher Antoine. En revanche, je peux vous dire que dans ce film, eh bien, on voit Castella, chef d'entreprise assez peu porté sur la culture, mais qui lors d'une représentation de Bérénice tombe complètement en adoration pour le texte et pour l'interprète principale, Clara, et comme la vie est bien faite, celle-ci va lui donner des cours d'anglais nécessaires à son travail.
The.
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 The. The. The. The.
Yes, very good.
The. The.
Yes.
The.
Okay.
The.
Okay.
The. The.
Okay.
The.
Okay, that's okay.
Vous avez déjà goûté les autres, Sarah Succo ?
Ouais. Bah, dans le cinéma, on goûte beaucoup les autres. Ouais, ouais. Bah parce qu'à la table régie, il y a tellement de choix.
Vous êtes ah oui, c'est ça, vous parlez de la table régie.
Vous parliez de quoi?
Non, non, de rien.
Des régisseurs? Ah non, jamais.
Non, non. Donc, pourquoi ce film? Pourquoi ce film d'Agnès Jaoui?
Pourquoi ce film? Pour ce titre, Le goût des autres, qui, je pense, nous fait un bien fou. Je crois que ce film est sorti en 2000.
Ouais.
Il va presque avoir 20 ans, l'âge d'Agnès. Parce que quand j'étais dans cette secte enfermée, j'allais en cachette chez mon amoureux de l'époque. Je faisais le mur. Je traversais des rues entières. Et je connaissais pas grand-chose du monde. J'ai appris qu'était Michael Jackson donc à 18 ans. On m'a dit que Madonna, je pensais que c'était une chanteuse qui venait du sud-est de la France. Donc c'est pour vous dire à quel point j'étais paumée.
Oui.
Voilà. Non mais c'est pour vous donner le contexte.
Oui,
et en cachette, il m'a montré des cassettes vidéo. Il en avait trois. Il avait Pierre Palmade. J'adorais ses sketchs. Il y avait les Deschiens à la maison. Et un jour, on a vu Cuisine et Dépendance. Et donc en fait, pour moi, le cinéma, c'était Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri. Et un jour, je lui ai dit, tu sais quoi ? Un jour, si j'arrive à la Paris, je suis comédienne, mon rêve, ce serait de jouer avec Agnès Bacri.
Et
il m'a dit, c'est pas Agnès Bacri, c'est Agnès Jaoui, voilà.
Bah oui.
Et quand Le goût des autres est sorti, je me suis dit, mais enfin, c'était un premier film à la réaliser. Le goût des autres, enfin, on peut pas faire mieux.
Ouais.
Et donc, quand j'ai eu la chance de rencontrer Aurore, sur Aurore Agnès Jaoui, voilà, j'ai peu d'amis dans ce métier parce que mes amis sont dans la vie, mais Agnès Jaoui, c'est une marraine de cœur, c'est une marraine qui m'a porté avec Corinne Maziro, notamment, à écrire ce film. Donc, Le goût des autres, je trouve ça merveilleux. Et ayons le goût des autres et de l'autre.
Très bien. Sarah Succo, passons à la série. Votre choix s'est porté sur Le département de Mathias Gerbig, Benjamin Bunel et Benoît Blanc, diffusé sur YouTube puis sur Canal en 2016. Charline, un programme court, débordant de cet humour absurde dont vous raffolez. Dites-nous pourquoi.
Bah parce que la série est une sorte de croisement entre The Office et les Zucker Abraham Zucker, les aventures zinzin de Camille Boulin, la nouvelle stagiaire du département, un mystérieux service d'une grande entreprise gérée par une bande de dingues.
Extrait.
Excusez-moi. Bonjour, je suis la nouvelle stagiaire Camille.
Ah, Marc-Olivier Martin, tu peux m'appeler Marco. Même si ici, tout le monde l'appelle Hugues, sauf moi, hein, Marco. Bon, en tout cas, bienvenue, Gabriel.
Camille.
C'est qui, Camille? Camille, c'est la fille des services généraux, tu sais, avec le chignon.
Ah oui, je vois.
Mais non, c'est moi, Camille.
Bah, tu travailles au service généraux, mais t'as même pas de chignon.
Non, moi, je vais faire un stage.
Au service généraux?
Non, au département.
Bah, pourquoi tu vas faire un stage chez nous si tu travailles déjà au service généraux?
Je travaille pas au service généraux.
T'es dans quel service alors?
Mais aucun, je viens faire un stage chez vous.
Ah, c'est Guilin. Ah, Guilin.
Pourquoi choisir ce mystérieux service d'une grande entreprise, Sarah?
En fait, le département, donc, c'est leur dernière création série qui est passée effectivement sur Canal+.
Production Bagel.
Production Bagel, ouais, enfin maintenant ils sont plus produits par Bagel, c'est un peu compliqué. Canal+, c'est un peu compliqué parce qu'à un moment donné, il y avait des patrons sympas. Et puis il y a eu un jeune homme, je sais plus, qui avait pas trop d'argent là, Vincent Bolloré.
Vincent B.
Vincent B, ah ouais, voilà, Bolloré, je sais plus, parce que moi je connais pas tout. Et en fait, non, ce que j'aime avec cette série et surtout en fait leur parcours, c'est des jeunes, entre guillemets, enfin ils ont 40 ans, mais ils ont commencé sur YouTube, donc c'est pas des millennials. Et je trouve qu'ils cherchent à créer des ponts entre YouTube, Canal+, la télé, les médias.
Ouais.
Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, justement, on met des gens dans des cases, on essaie tous de s'en sortir. Et je trouve ça formidable, ils ont un humour absurde. C'est les Monty Python mélangés à du thriller, mélangés à des films d'horreur. Là, ils préparent un nouveau court-métrage, il paraît. Enfin, j'ai regardé un peu le teasing. Et voilà, je trouve qu'aujourd'hui, on a besoin de ça, en fait.
Très bien. Il me manque, pour que cette pop-list soit complète, de la musique. Eh bien, on va terminer cette pop-list avec votre chanson culte. Et cette chanson, c'est celle-ci, Sarah Succo.
De jolies putes, vraiment. Il y a vraiment bien beau bordel. Même qu'à Dakar, ça je peux le dire, il n'en avait pas de pareil. Il n'en avait pas de pareil. Il n'en avait pas de pareil.
Jolie pute de Barbara, c'était sur l'album Madame en 1970. Pourquoi vous êtes amoureuse de cette chanson?
Alors, je crois que je suis tombée un peu amoureuse de Barbara. Alors, je croyais à l'époque que c'était, je vous jure, c'est vrai, on me disait que c'était Barbara Gourde et je ne savais pas la référence. Non, mais je vous jure, c'est pour vous dire. Et donc, mon amoureux de l'époque me disait que c'était Barbara.
La Barbara des nuls, donc.
Oui. Mais je ne sais pas, oui, je l'ai su après. D'accord. Je l'ai su après. En fait, Barbara, pour moi, c'est un petit peu comme le dit Henri Méchonic, un poème que j'aime beaucoup, poète, qui dit que toute œuvre est à la fois politique, poétique et éthique. Et pour moi, Barbara, c'est une avant-gardiste. Je pense que dans des jolies putes, vraiment. Là, vous avez passé un extrait, mais elle dit, voilà, c'est des putes de Douala, c'est des putes de... Voilà. Et elle dit, sans aucune vulgarité réelle, elle parle des toisons. Et en fait, elle parle de la femme d'aujourd'hui, qu'il faudrait qu'on respecte partout dans le monde. C'est-à-dire qu'en fait, de jolies putes, vraiment, ça veut dire que soyons libres d'être ce qu'on veut, soyons libres d'être putes si on le veut, soyons libres d'être de tous les pays, soyons libres d'avoir une pute qui porte un voile, qui porte un niqab, soyons une pute... de jolies putes, vraiment. Et ce que j'aime, c'est qu'elle le dit de manière extrêmement délicate. Ouais. Et je me dis, quelle merveille. Pour moi, c'est un mélange entre Bachung, Jacques Brel, que citait JCVD. Voilà, je suis amoureuse de tout. Après, vous savez, vous me dites une chanson culte. C'est aujourd'hui 18 novembre. Le culte, moi, il n'y a que le culte de l'église, hein, le denier du culte. Hein.
Bien. Je résume. J'étais la fille de François Mitterrand, le goût des autres, le département et de jolies putes. Je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture. Et ça nous donne ça.
Excusez-moi.
Veux.
Bonjour, je suis la nouvelle stagiaire Camille.
De jolies putes, vraiment. Il y a vraiment bien beau bordel.
Ah, Marc-Olivier Martin, tu peux m'appeler Marco. Même si ici tout le monde l'appelle Hugues, sauf moi, hein, Marco.
Et soudainement, comme une éclaircie inespérée, je comprends tout. Je suis sa fille.
Nous avons eu bébé fortiche qui était tatoué de bas
en. Bon, en tout cas, bienvenue Gabrielle.
Elle avait des cœurs sur les niches.
Yes, very good.
The.
Ok, that's okay.
Ah, c'est Guilin.
Voilà ce qui est dans la tête de Sarah Succo, notre invitée d'aujourd'hui. Bon, Sarah,
bravo,
on va parler...
Hein, bravo, parce que je pensais, j'ai toujours cru qu'il y avait un vrai mixeur, je pensais que c'était un thermomix.
Non, c'est un être humain.
C'est une personne. Il fait avec sa tub, il fait avec quoi?
Non, c'est le mari de Barbara Gourde. Sarah Succo, si vous saviez avec quoi il le fait.
Oh, dites-moi.
Gislain Fontanus. Non, je peux pas vous dire.
Avec quoi?
Non, il y a
avec
des enfants. Non, il y a des enfants qui écoutent.
Mais
ici.
les smoothies que vous faites le matin, il le fait avec ça? Je l'orange.
Il fait tout avec.
Oh merde.
Sarah Succo, on va parler des.
On va parler des éblouis.
Votre film dans la suite de Pop. Mais avant ça, écoutons, tiens, Hold Back. C'est un morceau du songwriter et rocker gallois, Geraint Watkins.
Hold back. Hold back the night. Hold back. Hold back the night. I don't wanna see you.
I don't wanna see you
in my dream.
In my dream.
Hold back.
Hold back. Hold back.
Hold back the night.
Hold back the night.
I don't wanna see you.
I don't wanna see you
in my dream. Back tonight.
Hold back the night.
tonight. All back. All back tonight.
Antoine Decaune
et Charline Roux. Agent, couple et Instagram sont les résultats qui tombent en premier quand on tape votre nom sur Google, Sarah Souko.
Ah bon ?
Oui,
ah
dans une spéciale
depuis quand
cinéma. Bah, depuis
ah bah ça doit être très récent alors.
Depuis que Corinne Maziero a modifié.
Ah voilà. Avant c'était bite, saucisse et caca, et n'oubliez pas les paroles, mais bon.
Mais dans une spéciale cinéma, eh bien on va parler de cinéma. Aujourd'hui, Sarah Souko, vous venez de nous présenter Les Éblouis, le film que vous avez réalisé, votre premier long métrage.
Oui, je vais être très sérieuse parce qu'il est 16h32, mon fils est rentré du collège, il écoute.
Bien, donc bienvenue au club avec ce premier film, Les Éblouis, c'est l'histoire de Camille, une petite fille de 12 ans, passionnée par les arts du cirque, qui voit ses parents s'engager dans une communauté religieuse, dont les valeurs sont basées sur le partage. Un engagement qui va déranger Camille, qui va rapidement s'apercevoir que la fameuse communauté ressemble plutôt à une secte. Elle se met alors en tête de se battre pour sauver sa famille. Bande annonce.
C'est pas normal, Camille.
T'inquiète.
Putain, mais arrête de faire comme si tout était normal.
C'est semblant.
Je veux plus faire semblant.
Pour sortir, pour qu'on soit ensemble.
Camille, tu as fait entrer dans notre communauté la suspicion et le vice. Nous écoutons ta demande de pardon.
Non.
On aura reconnu Jean-Pierre Darroussin dans le rôle du père, du berger.
Du berger.
Du berger, bien sûr. Alors c'est un film qui est inspiré d'une histoire vraie.
Oui.
Et cette histoire, c'est la vôtre, Sarah. Est-ce que vous avez mis du temps à digérer ça, à pouvoir raconter cette histoire ?
Ouais, je pense que c'est un petit peu, si vous voulez, moi je viens du sud, mais mon homme est alsacien, c'est un petit peu comme si vous mangez à peu près 14 choucroutes par jour, vous voyez, il faut du temps quoi, pour digérer. Parce que la choucroute, c'est du chou, ça fait péter, et grandir dans une secte, ça vous fait chier. En fait, oui, j'ai mis du temps à l'écrire. Alors juste, je corrige juste un petit truc, vous avez dit tout à l'heure, c'est vrai, hein, merci pour la présentation du film, vous avez dit, elle tombe dans une communauté qui va se devenir sectaire et qu'elle s'en rend compte. Le principe, justement, c'est qu'elle ne s'en rend pas compte, l'héroïne jouée par Céleste Brunkel, parce qu'une adolescente qui rentre là-dedans, moi je l'ai vécu bien sûr en tant qu'enfant de 8 ans à 18 ans, et on était bien plus nombreux que dans le film, mais ce qui est vrai, c'est qu'on ne s'en rend pas compte. Moi j'ai réussi à dire le mot, je suis dans une secte, j'avais 25 ans, et encore je le disais comme si je disais aux copains, ouais, non mais mon père était boulanger, je t'avais pas dit, oui moi j'ai grandi dans une secte.
Alors elle ne se rend pas compte que c'est une secte, mais elle se rend compte des dysfonctionnements et du fait qu'ils sont tous à moitié cinglés quand même.
Tout à fait. Ben, ils sont pas à moitié cinglés, c'est ça le problème. C'est qu'ils sont... Enfin, je me permets de corriger, parce que
c'est vrai que
sémantiquement parlant, les communautés charismatiques, elles ont pignon sur rue. Et sémantiquement parlant, les mots font qu'aujourd'hui, justement, comme on confond tout, on met tout sur le même ordre. Voilà. Les communautés charismatiques sont des communautés charismatiques parce que ça vient des années 70 des États-Unis. Ça reçoit le charisme. C'est le Saint-Esprit qui vous donne le charisme. Et donc, c'est des prêtres qui sont dans des paroisses, dans des églises en France, balayons devant notre porte. Nous sommes dans un État laïque. La séparation de l'Église et l'État, c'est 1905. Nous en sommes loin dans les faits. En France, il y a chaque année 90 000 enfants victimes de dérives sectaires. C'est les chiffres officiels donnés par l'État. D'accord ? Sauf que maintenant, ces communautés charismatiques, il y en a qui sont déviantes. Elles ne le sont pas toutes. Donc vous avez raison, l'héroïne Céleste Brunkel, l'adolescente, elle voit sa mère, Camille Cotin, et son père, Ricard Avaca, rentrer là-dedans. Ce sont des gens intelligents. Ce sont des gens en souffrance.
C'est la mère est très fragile.
Voilà.
C'est ça, en fait. La porte d'entrée, c'est l'extrême fragilité de la mère. Et la petite fille n'a pas de raison d'avoir de défiance vis-à-vis de ça. C'est sa mère. Donc il y a un amour inconditionnel.
Oui, bah oui, mais enfin je sais pas si vous êtes parents tous les deux.
Oh oui.
Voilà. En tout cas, je pense que même ceux qui sont parents, on est tous enfants. Et vous avez raison. Et je pense pas qu'elle soit très fragile. Elle est juste. Elle a 4 enfants. Elle vit en province. Elle a pas de travail. Enfin.
C'est ma définition de la fragilité. Après,
oui. Non, parce que vous avez dit extrême fragilité, tout à fait. Bah, mais vous avez raison.
C'est
pas
facile.
Non, non, c'est vrai, c'est pas facile. Mais ce que je veux dire, c'est que souvent, on imagine que les gens qui rentrent dans une secte, on dit tombent dans une secte, etc. Ouais. Moi, mes parents, quand ils sont rentrés dedans, ce sont des gens brillants. C'était des gens brillants. Je ne les vois plus. Donc, je ne sais pas s'ils sont brillants maintenant. J'en sais rien. En tout cas, ils étaient brillants. Mon père était prof de philo. C'était des gens qui étaient éduqués. Il y avait des enfants. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'on ne tombe pas dans une secte. Ouais. C'est qu'en fait, c'est tellement charmant. La charité chrétienne, la solidarité. Moi, j'ai vécu ça dans les années 90.
Tous les bons sentiments.
Exactement. Ouais. J'ai vécu ça en 90. On est en 2019. J'ai écrit ce film. J'ai commencé à l'écrire en 2013. Et aujourd'hui, on me dit qu'il y en a beaucoup plus qu'avant.
Mais Sarah, vous dites ne pas avoir fait un film à charge.
Ouais.
Mais pourtant, moi, spectateur, je sors de la projection. Mm-hmm. Je suis remonté à bloc.
Ah, mais c'est pas pareil, être remonté à bloc et à charge.
Bah, si.
Remonté à bloc, c'est-à-dire que vous êtes sur un bloc et vous avez envie d'agir.
Non, ça veut dire que vous avez. Non.
Ah, bah oui.
Ça veut dire que vous avez pointé du doigt un dysfonctionnement, enfin, quelque chose qui est vraiment, tout à fait anormal.
Ouais.
Hein, dans le fonctionnement de cette société.
Ah, bah oui.
Et qui vous fait bouger, qui vous met en colère, qui vous dit, c'est pas possible que ça, ça existe.
Ouais. Parler d'un film de combat.
Oui, mais ça me fait très, très plaisir que ce que vous me dites. Mais encore une fois, enfin, pardon, je vais être tatillon sur les mots parce que. Parce que je suis...
Tatillonne.
Impliquée ?
Ouais, parce qu'en fait, on m'a offert Madame Tatillon, le petit livre pour enfants. Non, il se trouve qu'effectivement, quand je dis que je n'ai pas fait un film à charge, c'est que si je voulais faire un film à charge, je vous jure qu'avec ce que j'ai vécu, je pouvais faire un décalogue à charge.
Mmh.
Et là, j'avais 22 procès aux fesses.
Ouais.
Si j'avais voulu faire un film dans la haine et dans la vengeance, je pouvais le faire. J'ai fait un film de combat, mais en même temps, qui, dans son premier film, ne fait pas un film de combat ? George Lucas, quand il a voulu parler de son père, non mais c'est vrai.
Ouais,
George Lucas, quand il fait Star Wars, il disait « ça faisait 10 ans que je voulais parler de mon père, je n'y arrivais pas. Je voulais faire un film dans la distance et un film qui parle de l'espace. » Il a pris quoi ? Il a pris des sabres laser.
Ouais.
Moi, il se trouve que c'est un film français, j'avais 2,8 millions, et donc du coup, j'ai pris des cierges. Et Canicotin et Caravaca. Non mais c'est tout ! C'est vrai ! J'ai parlé ça. Alors bien sûr, c'est un combat, mais c'est le combat des acteurs, c'est le combat du film, c'est le combat de tout le monde. Voilà.
Vous dites que la première personne à vous avoir dit oui, c'est Jean-Pierre Darroussin, dont on peut pas dire qu'il est le rôle le plus simple à appréhender, parce qu'on disait c'est lui le berger, c'est lui qui a été le
il est pas sympa pour une fois.
Bah si, il est sympa, c'est ça
il
le problème.
Sympa, mais il est très dangereux.
Voilà. Hey, Charline, vous trouvez pas qu'Antoine il est un peu comme ça ? Je le trouve un peu fermé.
Mais bah, attendez, non, vous parlez un anticlérical primaire là, vous savez.
Oui, mais justement.
Donc en fait, non,
justement,
que dans
l'anticlérical,
racontez...
on peut pas dire qu'il y a des gentils, des méchants. Antoine n'est pas manichéen à ce point. Non, la gueule d'Antoine c'est pas manichéen.
Non, mais qu'il y ait des méchants chez les gentils qui prétendent être gentils, c'est encore pire.
Ah ouais, et ben ça s'appelle la perversion.
Voilà.
Mais ça, c'est la perversion. Qui est un mot aujourd'hui qui est galvaudé, on dit tout le monde est pervers, la personne. Non, c'est un pervers au sens ligne du terme, ça veut dire qu'en fait le pervers, la perversion, c'est semer l'autre, le mettre dans le trouble dont il ne pourra pas sortir. Donc vous avez tout à fait raison. Jean-Pierre Darroussin est le premier acteur, m'avait dit oui, parce que j'avais écrit en pensant à lui. Mais le tout premier qui m'a dit oui, c'est Dominique Besnéard.
Oui.
Parce que sans Dominique Besnéard, il n'y avait aucune histoire, aucun film. Quand j'étais avec mes frères et sœurs dans la secte, on était 6, on était une bande de sauvages. Des enfants sauvages à 6. Et grâce à nos rires, grâce à notre humour, parce que je pense que quelqu'un là depuis qui nous écoute depuis un quart d'heure peut-être se dit que j'ai un peu d'humour, après c'est pas, ça m'appartient pas. Comme on voit dans le film, quand les enfants y prient et qui disent « Seigneur, je t'en supplie, fais que maman aille mieux », ils sont sincères et puis ils enseignent « et fais que j'ai que mes seins poussent, pas de la moustache et que je pue pas du cul ». Mais moi, avec mes frères et sœurs, on dit ça toute la journée. Parce que si vous rigolez pas dans une comédie comme ça, vous mourrez en fait, voyez. Et donc grâce au rire, à la fratrie, voilà. Et donc Dominique Besnéard. Quand je l'ai rencontré, je lui ai dit « Dominique, j'ai un projet de film, etc. » J'avais un peu plus de 30 ans, j'avais 33 ans. Putain, merde, l'âge du Christ. Je m'en rendre compte. Merde, c'est affreux. J'ai dit « Dominique, quand j'étais enfant, j'ai grandi dans une communauté charismatique, catholique. Quoi ?» Il me dit « Ça existe ? Oui, j'allais à l'école, etc. Mais non, j'ai envie de faire un film. » On va le faire, ma chérie, on va le faire.
Il parle comme ça, vraiment,
il parle comme
Dominique.
Ça. Oui. Il adore, Dominique, qui m'écoute. Oui. T'as jamais remarqué ?
Il vous écoute, toujours.
Oui. C'est parce qu'il apparaît dans le terre.
Ah, c'est pour ça. Camille, bah vous parlez d'humour, mais Camille, votre héroïne, se sort de cet univers délétère, cette communauté charismatique, grâce à sa passion pour le cirque, à suivre les conseils de son prof qui l'encourage à découvrir son clown intérieur.
Ouais.
Alors vous qui aimez la comédie, c'est votre clown intérieur qui vous a sauvé aussi ?
Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Moi, je pense que oui.
Ouais, je pense aussi.
Je pense que le rire sauve.
Ouais, je pense que le rire sauve.
Je pense très sincèrement.
Ouais. J'ai lu une phrase très très belle hier sur l'Instagram qu'on m'a envoyée d'une jeune mannequin un peu poufiasse, mais comme quoi elles ont aussi des bonnes idées, c'est ça qui est beau. Elle a écrit, cette jeune fille, « Ne sois pas dans la vengeance, sois heureuse, ce sera pire pour eux. » Et Ouais, je crois que le clown, après moi je venais du théâtre et du coup je voulais pas faire ça, mais oui, en fait, ce que j'aime dans l'histoire du clown, et je l'ai découvert en écrivant le film, je précise que j'ai écrit ce film avec Nicolas Sciol, qui est un co-scénariste en or, qui est réalisateur, qui a fait Corporate, je le cite parce que vraiment c'est un film d'équipe. Et Nicolas Sciol a vraiment écrit le scénario avec moi. C'est-à-dire que de mon histoire avec un petit H, on est parti sur une grande histoire avec un grand H, et qu'on a voulu ensemble faire un film populaire, exigeant, parce qu'on respecte les spectateurs et qu'on pense qu'ils sont intelligents. Donc merci Nicolas Sciol. Et en fait, ouais, je pense que le clown, ça m'a sauvée, mais un peu comme tous les grands dépressifs, non? Et je suis pas dépressive, mais je pense que Charline, elle l'est un peu. Enfin, c'est ce que tu m'as dit. Bah, Charline, en off. Oui,
mais je le cache pas, moi.
Ah, tu le caches pas?
Non, non.
Enfin, elle a pas encore fait de film. Bon, ça s'appelle.
Ça risque pas d'arriver.
Ça s'appelle. Tu veux du Lexomil ou pas? J'en ai du Lexomil là. Bon.
Ça s'appelle Les Éblouissés, réalisé par vous, Sarah Succo. C'est votre premier long métrage. C'est un film très dérangeant, très étonnant.
Ah oui?
Très étonnant, oui. Et que j'encourage tout le monde à aller voir. Ça sort ce mercredi dans 48 heures. Ouais. Vous êtes un petit peu fébrile?
J'avais 38,7 ce matin, je crois que ça va.
C'est raisonnable, c'est raisonnable.
Ça veut dire que je suis pas enceinte, ça me rassure.
Vous vous étonniez tout à l'heure et vous me dites avoir préparé quelque chose. Vous savez faire plein de choses, mais est-ce que vous savez faire ça, donc?
Alors, je suis dégoûtée parce que je me suis entraînée pendant des années. Je ne sais pas le faire. Par contre, je sais faire des pets vaginaux à la commande.
Allez-y.
Mais comme le micro n'est pas bien placé, je vais le faire buccalement.
Allez-y. Ah, c'est ça.
C'est étonnant.
Oui.
Non, Charline, c'est pas ça.
Je sais pas.
J'avais oublié que mon fils m'entendait. Pardon.
Comment s'appelle-t-il?
Non, je le dirai pas.
Bon,
il va avoir honte.
Ok, pardon.
Attendez, excusez-moi, en fait, je sais le faire.
Non, elle sait pas le faire. Bon, c'est pas grave. C'est juste pour lancer les pop news.
J-3 avant le retour d'Elsa et d'Anna. Et oui, ce mercredi sort sur tous les écrans pour le plus grand plaisir de tous les enfants et de Simon Arestat, notre attaché de production, La Reine des Neiges 2 et son lot de nouvelles chansons, parmi lesquelles Lost in the Woods par, et c'est là la surprise, Weezer. Mes chers parents, soyez prêts à vocaliser.
Faith, hope.
Attends.
Love.
Je peux dire un truc ou pas?
Alors très vite.
Parce qu'en fait, juste, je sors le même jour que La Reine des Neiges 2.
Oui.
Disney a écrit hier un mail à Pyramide Distribution en disant on est un peu inquiet parce que ça marche bien.
Oui.
Il se trouve juste qu'en fait, la chanson phare de La Reine des Neiges, c'est exactement ce qu'on peut dire de mon film, Les Éblouis. Parce que quand vous verrez la fin sans spoiler, on peut dire que moi j'ai été libérée, délivrée. Non, je ne pèterai plus jamais.
Très bien. Et bien voilà, oui, une petite virgule, car ça c'était une pop news. Bien. Alors, Faith, Hope, Love, Luck, c'est le titre du premier épisode de la saison 7 de Ray Donovan. Comme la précédente saison, Ray à New York, on nous annonce un ennemi ressurgi du passé qui va venir troubler la quiétude toute relative de ce type payé pour effacer les erreurs des autres.
Mr. Donovan.
Yeah.
Detective Perry, homicide.
I do for you.
Wanted to talk to you about officers Danny Bianchi, Mike Radulovich and Al Clancy. You know them?
Friends of a friend.
Sean McGrath.
Mike.
How would you describe their relationship?
I don't know. As we drank together after work. Watch sports, that kind of thing.
L'épisode a été diffusé hier sur la chaîne américaine Showtime, arrive mercredi à 22h35 sur Canal Plus Séries. Si je vous dis que c'est la série que je préfère au monde, ça donnera peut-être à quelques-uns d'entre vous l'envie d'aller voir à quoi ça ressemble.
Des combats épiques, de la sorcellerie et du guerrier chevelu aux muscles saillants, voici ce que nous promet Conan, le Cimérien, le peuple du Cercle Noir. D'après l'écrivain Robert E. Howard, les aventures de Conan le Cimérien se déploient en 21 histoires, toutes indépendantes les unes des autres, et voici donc la nouvelle adaptation à l'initiative de Dargo, qui a proposé à divers talents de la BD française, pardon, de faire leur adaptation selon le principe un ouvrage égale une aventure complète égale une vision égale un auteur. À la manœuvre de ce nouveau numéro, donc le peuple du Cercle Noir, Sylvain Runeberg et Park Jae Kwang, et on nous annonce que la vengeance est un art. Ça arrive mercredi dans toutes les bonnes librairies.
France Inter. Popopo. Antoine Decaune.
Ouais, c'est moi.
Liv Schreiber.
Non.
Conan le Barbare.
Connor
le
Barbant.
Bah ouais, bien sûr. Oui.
Merci Charline. Sarah Succo, vous restez avec nous. Cette spéciale cinéma continue cette fois avec les tournages qui ont mal tourné. Et on en parle dans la suite de Pop 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 avec Philippe Lombard. Juste après, tiens, Michael Jackson que vous avez découvert donc à 18 ans, c'est You Rock My World.
Oh merde, je la connais pas. Je peux chanter quand même?
Ouais, oui, bien sûr.
Mais je la connais pas. Moi, je connais
c'est
que Use Bad.
Ouais, chanter Use Bad.
Thriller. Thriller, c'est Michael Jackson?
Ouais. Thriller par-dessus.
Like a Virgin.
Allez, vous le chantez par-dessus.
C'est Madonna?
Ouais.
Oh,
change the way I want, the way I don't. I cannot explain the things I feel for you, but girl, you know it's true. I'll stay with me, I'll fill my dues, and I'll be all you need.
Michael Jackson, c'était sur l'album Invincible en 2001. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon
pop.
Celui-là était bien. Nous sommes toujours en compagnie de Sarah Succo et vient de nous rejoindre Philippe Lombard. Bonjour Philippe Lombard.
Bonjour Antoine. Bonjour.
Après avoir parlé d'un tournage qui s'est bien passé avec Sarah Succo, intéressons-nous aux tournages qui ont mal tourné, que vous avez pris un plaisir sadique, disons-le, hein, mais jubilatoire à recenser dans le cinéma hexagonal. Vous avez un mauvais fond, vous, hein.
C'est ça, oui, c'est ça.
C'est ça.
C'est toujours plus intéressant de voir ce qui va mal que ce qui va bien, en fait.
Bah évidemment, bah évidemment, oui. On s'ennuie. Ah oui. Alors, Philippe Lombard, vous publiez donc « Ça tourne mal », sous-titré « L'histoire méconnue et tumultueuse du cinéma français » aux éditions La Tango. De quoi nourrir quelques conversations dans les dîners en ville. Ainsi, dans « Ça tourne mal », on apprend qu'on ne verra jamais Marco Polo avec Alain Delon, ni Don Camillo et les contestataires avec Fernandel, ou encore ce western avec les Charlots et...
John Wayne.
John Wayne. Pourquoi?
Bah, déjà, je pense que le projet n'avait pas lieu d'être. Déjà, il fallait pas le faire, quoi. Mais en fait, c'est très étonnant. C'est-à-dire que c'est Christian Fechner qui prenait en main le destin cinématographique des Charlots, qui avait voulu... Les Charlots, c'est des millions d'entrées à l'époque. Ouais, et, ouais. Il a voulu les faire monter d'un cran, en fait, quelque part. Il leur a fait faire Bon Baiser de Hong Kong, qui était une parodie de James Bond, tournée en Asie, à Londres, etc. Et après, il s'est dit, on va faire un western. Je sais pas comment l'idée lui est venue.
Avec John Wayne.
Avec John Wayne. Et l'idée, c'était un cow-boy, donc John Wayne, qui...
John Wayne.
Ah oui, c'est vrai que vous étiez enfermé.
Non, je rigole, c'est bon, je me suis rattrapé, j'ai acheté une télé, quoi.
Donc, John Wayne, est-ce que John Wayne a eu le scénario entre les mains?
Alors, ce qui se dit, c'est qu'il était d'accord.
Oui. John Wayne.
Ouais. Oui, moi aussi, ça m'étonne.
Ah oui.
Oui, on se demande bien pourquoi il aurait été d'accord, mais en fait, a priori, il aurait été d'accord pour faire ce rôle de cow-boy qui veut faire passer un troupeau de bétail dans le désert, qui a personne sous la main, donc il prend les premiers bras cassés qu'il trouve.
Un berger.
Donc voilà. Et puis finalement, il y a eu
on se souvient mal de John Wayne comme artiste de comédie, non? Comme comédien de non?
Non.
Non, mais quand même.
Si vous l'avez vu dans les trucs marrants.
Dans L'Homme tranquille, choses comme ça.
Je parle de films marrants.
Bah, dans Gendarme à Saint-Tropez, t'es pas mal. Hein.
Oui, c'est vrai.
Tu l'as pas vu, Antoine?
Mais ceci dit, comment est-ce que vous glanez toutes les infos? Qui parle? Qui a intérêt à ce que ça se sache, en fait, que ces tournages ont été des fiascos, que ces projets ont été...
Oui, mais une fois que les années sont passées, en fait, les gens peuvent en parler. Donc, il y a des gens qui écrivent leurs souvenirs, qui racontent dans des interviews et tout ça. Donc, moi, j'amasse ça depuis des années et je trouve ça toujours...
Depuis combien de temps?
Bah, depuis toujours.
Philippe Lombard, vous intéressez plus au making-of des films qu'au film même?
Non, parce qu'en fait, les making-of, ce qui se passe mal, ou ça prolonge le plaisir, en fait.
Ouais.
Parce qu'il y a des films qu'on connaît, et je parle pas des grands films classiques, on sait ce qui a pu se passer sur Citizen Kane ou je ne sais quoi, mais quand on regarde La Chèvre ou Le Jeune de Saint-Tropez, moi, ça m'a toujours amusé de savoir ce qui s'est passé derrière, parce qu'on on sait pas forcément que les acteurs se sont tapés dessus, ou ça s'est mal passé, et pourtant, ça fait des grands films, quoi.
Charline, vous avez réussi à décrocher le casque, non?
Je suis navrée. Non, et je suis désolée, c'est pas grave. grave, c'est mon casque qui est coincé, mais c'est pas grave.
Mais il non, est
mais
coincé
je...
dans
la fin. J'ai
essayé, mais j'ai
fait ça. Ça me fait des belles boucles d'oreilles. Je vais continuer. On continue
l'émission.
Alors, excusez-moi, Philippe.
Philippe, le montage d'un film, c'est toujours, et je sais de quoi je parle, une usine à gaz. À partir de quel moment ça vous intéresse, vous? C'est quand vraiment ça part en couille?
Il y a plusieurs éléments, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on a envie de faire et qui ne se fait pas. Mmh. Il y a plein de films qui ne se fait pas. Je crois qu'il y a un San Antonio avec Antoine Decaune qui a failli se faire.
Ah, vous êtes bien informé, bravo.
Qui ne s'est pas fait. Il y a ensuite, ce qui est intéressant, c'est ce que ça produit en fait. Quand Godard fait Le Mépris, par exemple, et qui présente le film aux producteurs, les producteurs sont pas contents parce qu'en fait, comme dit un des deux producteurs américains, Joseph Lewin, qui dit, je le cite, moi ce que je veux c'est le cul de Bardot et je l'ai pas.
C'était un peu méprisant, non?
C'est un peu.
Mmh.
Et parce qu'en fait, voilà, c'était un sex symbole, donc il voulait quelque chose un peu sexy, un peu d'érotique, donc il a forcé un peu Godard à faire ça. Il a pas voulu le faire. Il y a eu un avenant au contrat où on expliquait qu'il fallait mettre en valeur la personnalité de Brigitte Bardot dans un style sexy ou érotique, aussi bien que faire se peut. Ça, c'est la phrase qu'il y a dans le contrat, donc c'est un peu vague, quoi.
C'est ouvert, oui.
Et puis finalement, Godard fait la scène d'ouverture du Mépris, qui est une scène des plus célèbres du cinéma, quoi. Voilà, donc finalement, c'est ça que je trouve assez passionnant.
On entendait en début d'émission Jean-Pierre Mocky, un hurlant pour lancer une scène, mais il y a donc pire et surtout moins connu que Mocky dans ce registre-là. Dans les films qui partent en catastrophe.
Dans les gens qui hurlent
À la fois dans les gens qui hurlent et puis dans les films qui tournent mal, donc.
Si on prend la catégorie, parce que Mocky est dans la catégorie cinéaste hurleur, ouais, il y en a quelques-uns. Il y a Piala, évidemment. Oui. Il y a même Robert Lamoureux, quoi, en fait.
Robert Lamoureux.
Robert Lamoureux, oui, en fait, il pouvait faire 40 ou 50 prises à quelqu'un et les acteurs étaient liquéfiés, quoi.
Il est très sympa, il fait une prise.
Mais longue.
Mais il emmerde vraiment pas les acteurs ni les actrices. Il paraît, moi je le connais pas.
Vous parlez aussi des acteurs hurleurs, il n'y a pas que les réalisateurs, hein, parce qu'il y a quelques pages sur Ventura où on nous explique quand même que c'est pas...
Il y a une phrase de Francis Weber qui dit que, qui a donc écrit L'Emmerdeur, il disait que L'Emmerdeur, ça pouvait très bien se correspondre à Ventura, en fait. Il était très exigeant, Ventura, il pouvait être très emmerdant avant le tournage et pendant...
Ça commence comment, quand et ça finit où, l'exigence d'ailleurs? Entre un acteur exigeant et un acteur emmerdant.
On perd de l'audience, là, Antoine, on ne comprend pas la question. On me dit qu'on perd beaucoup d'audience.
Non, pas du tout.
Aurélien ou pas? Apparemment, tu as perdu un peu de monde.
Non. À partir de quel moment un acteur devient un emmerdeur?
C'est très subtil. L'acteur emmerdant, il emmerde un peu tout le monde. L'acteur exigeant, peut-être qu'il emmerde que le réalisateur, je ne sais pas.
J'ai un témoignage parce que j'ai fait un petit peu des films en tant qu'actrice. Moi, je pense que tous les acteurs et actrices sont chiants. Mais qu'en fait, c'est juste, c'est leur travail et que du coup, ils sont un peu sensibles. Qu'un acteur chiant, c'est juste un acteur qui ne respecte pas les autres.
Voilà. Marche pour toutes les professions.
Bravo, Charline, exactement.
J'ai un grand regret quand même, Philippe, parce que j'ai découvert dans votre livre que Jean-Pierre Mocky, toujours, avait failli adapter Règlement de compte à Hockey Choral avec Eddie Mitchell et Johnny Hallyday dans les rôles de Kirk Douglas et Burt Lancaster. Ah ouais. On a des sueurs froides quand même, rétrospectivement.
Oui. Alors après, il faut.
Sueurs froides, c'est Hitchcock, pardon.
Après, il faut savoir que ce que raconte Mocky, il faut peut-être des fois prendre ça avec des pincettes.
Ouais.
Voilà.
Mais bon, d'où l'histoire des sources.
Mais voilà, quand la légende est plus intéressante que la vérité, il faut imprimer la légende.
Philippe Lombard.
Est-ce que j'ai droit de poser une question à Philippe Lombard ou pas, moi?
Vous avez 10 secondes.
10 secondes. C'est juste, en fait, Philippe Lombard, est-ce que vous êtes duc? Parce que moi, je connais le duc des Lombards.
Non, d'accord, pardon.
C'est ça la question?
Elle te plaît, Antoine?
On avait dit 10 secondes. Alors, ça s'appelle Ça tourne mal et c'est édité chez Latengo. Et c'est un livre absolument tordant. Philippe Lombard, Sarasuku. Je crois que c'est ici que les Athéniens vont s'atteindre. Hein. Merci infiniment d'être venu nous voir aujourd'hui. On va écouter un petit peu de musique avant de se quitter. Un morceau de Christophe qui s'appelle Rock Monsieur.
Merci beaucoup.
Attendez, après.
Une goule à faire, poker, replonger, money, faites tomber. Mais si vous aimez, monsieur, voilà du rock, c'est mieux. Rock, c'est mieux. Rock, c'est mieux. Topu, ravagé, chanson, tube d'acier. voiture, j'ai le dossier. Et stop, je suis planté. Mais si vous aimez, monsieur, voilà du rock, c'est mieux. Rock, c'est mieux. Rock, c'est mieux. Le joint, comme plombier. Rasmotte, en suquet. Téléphone, dérangé. J'coumoune, comme pas vrai. Mais si vous aimez, monsieur, voilà du rock, c'est mieux. Rock, c'est mieux. Rock, c'est mieux. Costume, mal coupé. Cheveux, mal rasé. Galère, comme je t'aime. Aïe, aïe, joli garçon. Mais si vous aimez, monsieur, voilà du rock, c'est mieux. Rock, c'est mieux. Rock, c'est mieux.
Christophe Rock, monsieur. Merci, merci Sarah Souko. Merci d'être venue nous voir aujourd'hui. Les Éblouis, votre premier film, ça sort ce mercredi. Je vous souhaite la meilleure des chances et c'est un film pop, pop, pop.
Et puis merci, merci beaucoup, beaucoup. Merci à Charline et merci Antoine parce que sincèrement, je ça se voit pas trop parce que j'ai fait beaucoup de blagues, mais. J'étais très émue d'être là, c'est très, très important pour moi.
Très bien.
Merci.
Merci, merci, merci aussi Philippe Lombard. Ça tourne mal, merci. C'est édité chez Latengo, un livre absolument réjouissant et délicieux. Merci à l'équipe de Pop Pop Pop, Ghislain Fontanus à la réalisation, à la technique Arthur Le Breton, Aurélien Esvan, le Normand, notre rédacteur en chef, Claire-Sophie Collet, la Lorraine et Simon Resta, le Palois, nos attachés de production, la programmation musicale Djoubaka, le Tatoué, et Raphaël Harry, le Savoyard, notre stagiaire. Demain dans Pop Pop Pop, Romain Duris vient nous rendre visite et nous parlerons de science-fiction avec Mortel, la nouvelle série Netflix avec son créateur Frédéric Garcia et l'acteur principal Nemo Schiffman. Mais avant demain, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jones 3.0, un Yeuv ou une Yeuvesse à la pointe, suivez-nous. Ou plutôt, comme disait, puisqu'il est là, s'il nous a quitté, Jean-Pierre Mocky à la fin de ses tutos. Ça veut dire abonnez-vous à notre podcast.
Corinne en fait, Maziro, elle dit pareil.
Elle dit pareil.
Elle dit putain, moteur, ça me gave la saucisse.
Et suivez-nous sur les internets, comme disent les millennials 3615, pop, pop, pop sur Instagram et Twitter.